De retour avec l'émission Espace Visuel, suivie de l'émission In Situ avec Chantal Leroux. Alors,
bonjour Pierre.
Bonjour Chantal, oui.
Je suis un peu
troublée. Alors bonjour Geneviève et bonjour Robert, tout autour de la table.
On a un gros spécial donc de fusionner nos deux émissions.
C'est ça. Pour essayer de parler du plus grand nombre de films possible, malgré le peu de temps qui nous est accordé.
Oui.
Donc, moi j'en ai choisi trois, d'ailleurs chacun de nous en a choisi trois.
On va faire un tour de table, tout le monde est réuni parce que justement le 35e festival bat son plein jusqu'à dimanche, alors en profiter pleinement, on a fait appel à... un escouade de chroniqueurs, dont Pierre Archambault. Merci de nous accorder du temps sur ton émission, Pierre.
Avec plaisir.
Alors, trois films, donc, dont tu voudrais nous parler.
Je débute avec Complexe de la salamandre, qui nous fait connaître l'artiste Patrick Neux, que je ne connais absolument pas, qui vit et travaille dans les Vosges, dans la forêt. Et il reprend plutôt des détails des tableaux de Jérôme Bosch qu'il va dessiner avec minutie à l'intérieur de coupes à vin qu'il a enduit de fumée. Alors ça, c'est une de ses œuvres. Ensuite, on le voit qu'il se procure une boîte d'abeilles mortes,
ah oui,
dont il va arracher les ailes une par une pour ensuite composer un magnifique masque translucide. On voit aussi, il sculpte une immense aile qui doit faire au minimum de 2 mètres de long en cire. Alors, c'est un travail vraiment de délicatesse et de patience qui parle de fragilité, c'est sûr. Aussi l'éphémérité des choses. C'est très près de la pensée zen.
Ben oui.
Alors, ses œuvres sont exposées, je crois, actuellement, ou ça se termine bientôt, au Palais de Tokyo à Paris.
De
Et d'ailleurs, le directeur du Palais de Tokyo, on le voit dans le film, va le visiter à son atelier. Et là, il y a des situations assez cocasses, parce que quand il voit ces objets d'une grande fragilité, il pense au déplacement de ces œuvres-là et à l'installation. Entre autres, une fois dans le musée en train de faire le montage, il avait pensé à monter une tour de près de 2 mètres en superposant les coupes à vin dont il avait coupé le pied ou fait couper le pied. Et là, le directeur est à côté et entend des craquements et là, il devient absolument nerveux. Et l'artiste, M. Neux, lui dit « Ah, il faut trouver laquelle... Lui, il est complètement dehors des problèmes. Mais c'est un film vraiment exceptionnel. C'est
un artiste à part.
Un artiste à part,
oui.
Que j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître et dès qu'il y aura une exposition quelque part.
On va souhaiter qu'il va être pris. Malheureusement, il ne repassera pas. Mais...
Ben, à moins qu'il gagne un prix.
Ah!
Dimanche.
Sait-on jamais.
Ouais.
Oui, c'est samedi soir, la remise de prix.
Voilà. Les films seront repris dimanche dans la journée. Alors, voilà pour mon premier film, Geneviève.
Alors, moi, j'ai pensé à parler de The Chinese Leaves of Ulysses. C'est particulier parce que c'est un homme d'affaires suisse qui a décidé de faire des affaires avec les Chinois et qui est tombé amoureux de la Chine et de ses artistes. À travers ce film, on voit toute l'histoire de la Chine à partir de la mort de Mao Tse-tung et des artistes qui réagissent parce qu'il y avait un sculpteur qui dit « Ben, maintenant, j'aurais plus besoin de faire des sculptures de Mao, je vais pouvoir faire autre chose. » Donc, l'art moderne commence à éclore. Et jusque dans les années 90, il va y avoir une espèce de liberté. Ils vont avoir accès à l'art occidental et leurs influences, ainsi de suite, jusqu'à Tiananmen, jusqu'à la révolution des étudiants où ils ont pris la rue. Et ça a été vraiment la fermeture complète par les autorités de l'art. Donc, à ce moment-là, il y a un mouvement underground qui s'est créé Et Sieg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert ses artistes et il a acheté de ses œuvres. Ai Weiwei faisait partie du nombre, mais quand on voit ce film, on découvre carrément l'art moderne chinois.
Puis l'art contemporain.
L'art contemporain, je veux dire, chinois, puis c'est extraordinaire. Mm-hmm. Parce que c'est immense. Donc on voit, il va devenir ambassadeur, et il va décrocher les œuvres contemporaines occidentales pour mettre à la place des œuvres contemporaines chinoises. Il va provoquer des réactions, justement, de la part des Occidentaux, parce qu'il va vouloir amener cet art à l'Occident, et il va vouloir présenter ces œuvres-là. Ça prendra un certain temps. Maintenant, l'art chinois est reconnu, mais ça a pris beaucoup de temps. Puis lui-même, pour pouvoir découvrir ces artistes, il devait aller dans les milieux underground, parce que c'était pas évident. Ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a accumulé un nombre d'œuvres immenses, là, des milliers et des milliers d'œuvres. Il a fait une fortune, probablement, avec ces œuvres-là.
Oui, il y a une grande spéculation actuellement sur l'art chinois, vraiment exagéré. Il y en a qui atteignent des millions de dollars.
22 millions de dollars. Mmh. Il a donné à un musée chinois pour 1463 œuvres qui sont évaluées à 138 millions de dollars. Mmh. Il a vendu à ce même musée 47 œuvres qui lui ont valu 18 millions d'euros. Donc, il a encore chez lui un nombre extraordinaire d'œuvres. Il faut le reconnaître, cet homme-là qui a été, l'ami des Chinois et l'ami des artistes chinois.
L'entremetteur.
C'est l'entremetteur, oui. Puis il en a un peu profité aussi.
Bien sûr,
autant,
ouais.
Il a fait sa fortune en Chine, hein, avec ses entreprises aussi.
D'ailleurs, je doute qu'il ne soit pas venu de la planète Mars. Il a vraiment une tête très bizarre.
Oui, très étrange. Mais il est très sympathique au bout du compte.
Eh bien, alors, voilà pour
un entrepreneur suisse, donc, qui a fait fortune, qui a succès.
Oui,
qui a remercié.
Ouais, disons qu'il a allié ses passions et.
Et quel est son nom? Eh bien, c'est son nom.
Sieg. S-I-G-G.
D'accord.
Uli Sieg.
Merci. Est-ce que tu as un film que tu recommandes, Geneviève?
Moi, oui.
Et justement, tu recommandes.
Et dimanche, je pense que c'est au Musée des Beaux-Arts.
Non, c'est samedi, à mon avis.
Attendez, là, c'est dimanche.
Dimanche
à l'UQAM à 3h15.
Oh!
Alors, 15h15, à l'UQAM.
Ah oui, dimanche donc. Oui. Dimanche à 13h15 à l'UQAM, voilà.
Oui. À 15h15.
À 15h15. Parfait. Belle recommandation. Merci, Geneviève. À Robert. On va passer à Robert maintenant.
Moi, je suis retombé en enfance.
Ben oui.
Que je suis encore dans la catégorie 7 à 77. Alors, oui. J'ai visionné le film Hergé à l'ombre de Tintin. Sans grandes attentes, parce que quand même, Hergé, c'est connu, etc. Mais j'ai quand même appris des choses intéressantes sur lui que je ne savais pas. Premièrement, Hergé, de son nom, c'était Georges Rémy, je pense. C'est ses initiales qu'il a inversées pour faire Hergé. Et il a commencé à dessiner très modestement pour une petite publication pour les jeunes qui originaient du mouvement scout catholique. Et puis, en Belgique. Et puis, déjà, là, il y a une trame, mettons, qui commence à se tisser parce qu'il va y avoir des accusations contre lui à un moment donné de colonialiste, de mentalité colonialiste qu'on découvre dans la première édition, en tout cas, surtout de Tintin au Congo. Et puis, il va y avoir l'occupation allemande plus tard, et puis ces accusations-là vont revenir le hanter. On y reviendra peut-être. Il y a un mystère Tintin dont on ne parle pas dans le film, cependant, on mentionne, mais c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est comment il a fait pour être... Parce que c'est un homme presque d'un autre siècle, il est né au début du siècle.
Oui.
Toute son imagerie est vieillotte. On a des vieilles voitures, des vieux avions, des pantalons, les fameux pantalons à Tintin. Il n'y a personne qui porte ça depuis Matusalem. Et malgré tout, la fascination auprès des jeunes continue de s'exercer. Moi, je suis beaucoup intéressé à ces albums quand j'étais préadolescent, disons. Et mes nièces, c'est la même chose. Je veux dire, la tradition se poursuit. Et ça, c'est l'aspect un peu vraiment surprenant dans son cas. Et puis, on voit l'évolution du dessin un peu, ça me faisait penser un petit peu à ce que j'ai vu de Schultz déjà quand il a créé les personnages de Peanuts. Le trait était très simple, très épuré. Et bon, et peu à peu, au fil des ans, les personnages ont pris de l'étoffe. Mais ce qui est assez curieusement, comme dans le cas de Tintin, comme dans le cas de Peanuts, c'est que le personnage principal, lui, est resté peut-être le moins développé graphiquement.
Ben oui.
Comme si ça
grandi,
permettait. Non, mais même au niveau graphique, parce que Snoopy, par exemple, quand ça a commencé, ouais, c'était un petit chien, il avait pas de caractère, mais à la fin, il était rendu, fait que c'était par le personnage, peut-être qu'il était le plus développé en termes graphiques puis en termes de personnalité. Alors que la partie graphique pour Tintin, comme pour Tintin, comme pour Charlie Brown, c'est que on les laisse avec un développement là, graphique minimal. Même la fameuse houppette de Tintin, on ne sait même pas quelle couleur là, ses cheveux à Tintin.
Et qu'est-ce que tu as appris de nouveau, Robert?
Ah, que j'ai appris
c'est
de nouveau?
C'est la couleur, excuse, c'est la couleur des cheveux de M. Trump.
Ah oui. Ce que j'ai trouvé intéressant, notamment, c'est que c'est d'apprendre, premièrement, que Hergé s'est dessiné à un moment donné, assis à sa table de travail, avec le personnage de Tintin à côté de lui, tenant un fouet, comme s'il témoignait là du fait qu'il s'était embarqué dans quelque chose à un moment donné, parce qu'il y a eu un tel engouement pour sa création qu'il a été sollicité, il fait des albums, etc., ça finissait plus. Et d'ailleurs, il y a une période de sa vie où il était un peu dépressif, etc., puis à un moment donné, ça, je ne savais pas, il s'est mis à faire de la peinture abstraite. Et il était un grand amateur d'art abstrait, ce qui est assez surprenant un peu, parce que c'était un gars quand même assez bourgeois, assez pépère, etc., puis qui faisait quelque chose de très, très concret, réaliste et bon, figuratif. Il s'intéressait à ça. Et puis, c'est comme s'il avait essayé, à un moment donné, c'était essayé de faire ça, puis il est revenu finalement, ses anciens bons. Il a fait de la publicité aussi.
Ouais.
On montre quelques affiches publicitaires qu'il a fait, c'est assez intéressant. Mais bon, il est revenu à ses anciennes amours du dessin. Je parlais tout à l'heure...
Donc, l'accent est plus mis sur Hergé comme tel que sur la bande dessinée.
Ah, parce que les deux sont pas vraiment dissociables. Ah, parce que c'est ça. Comme je te dis, il était tellement pris par son personnage de Tintin qu'il n'a pas pu vraiment en sortir, mais il aimait ça quand même, parce que finalement, à la fin de sa vie, il y est revenu. Et, mais ça lui a occasionné certains problèmes. Je parlais pendant l'occupation, par exemple. Le simple fait de travailler dans la presse, qui était contrôlée par l'État allemand, ou pro-allemand, était mal vu. De sorte qu'à la libération, il a même fait une journée de prison parce qu'ils ont étudié son cas. Puis là, finalement, il faisait des trucs pour les enfants, etc. Il n'a pas été...
Il n'a pas fait l'enfant en prison.
Non, c'est ça. Mais quand même, il y a une chose... on était tatillons quand même. On lui a reproché dans l'Étoile mystérieuse qui est parue pendant la guerre, que les savants qui faisaient partie de l'équipe internationale venaient tous des forces de l'Axe ou des pays de l'Axe, Rome, Berlin, Tokyo, Roberto, ou alors de pays proches ou associés. C'est un peu tatillon, comme... mais parce que finalement, sans être collaborateur, pendant que tu vivais sur l'occupation, tu étais un peu obligé de collaborer, entre guillemets.
Mais c'est ça.
Bon.
Est-ce que c'est un film que tu recommandes?
Oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi, des détails techniques comme la technique de la ligne claire, là, c'est le fait d'encercler ses personnages, etc. L'arrivée de la couleur pendant la guerre.
Ah oui.
Et puis comment il a joué toujours. Ah, chose étonnante, j'avais jamais remarqué ça. Ouais. Il n'y a pas d'ombre dans les albums de Tintin.
Eh bien oui.
C'est comme si c'était les vieux films américains là, qui.
Le plat.
Tout était éclairé égal partout. Oui. Là. Bon, c'est pareil. Là. On a des scènes de château, je ne sais pas quoi, il y a 200 personnes, mais aucune ombre. La lumière est partout.
C'est un bon choix de film, en tout cas, Robert. Un très bon choix de film. Et il va rejouer quand?
C'est ça. Avant que j'oublie, samedi, le 1er avril, à 13h15, à la banque, la BANQ, la Bibliothèque nationale.
En tout cas, je pense que ce que tu nous as transmis nous donne envie de courir voir ce film très spécial pour redécouvrir des aspects moins connus de Hergé.
Hergé, oui.
Pardon. Alors maintenant, je vais parler des miens. À ce moment-là, moi, c'est un. Je vous recommande, de toute façon, le petit film vraiment d'actualité et critique, hein, qui ont en commun l'organisation d'une exposition Alors, tout d'abord, ce sont deux films de la cinéaste allemande, et ça va en continuité avec ton invité en début d'émission, Pierre. Donc, deux films de la cinéaste allemande, Claudia Müller, qui a notamment travaillé avec le célèbre cinéaste Peter Greenaway. Et la cinéaste s'intéresse à la situation des femmes artistes, donc, qui sont, à ce moment-là, les femmes artistes sont moins exposées en musée, bien sûr, et moins cotées sur le marché de l'art. Alors, de là, elle a décidé d'en faire une série. Alors, c'est vraiment fascinant. Elle nous présente notamment, donc, dans le cadre du FIFA, deux films. Donc, le premier, c'est de l'artiste. C'est des films, en fait, qui nous permettent de faire une immersion dans le processus de commissaire de deux artistes. Et, par contre, il s'agit de l'organisation d'une exposition virtuelle, hein, donc, d'œuvres de femmes. Alors, tout d'abord, elle présente l'artiste américaine Kiki Smith, qu'on connaît très bien, là, qui a exposé justement récemment, en automne dernier, à la galerie René Blouin. Et Kiki Smith, donc, nous fait découvrir une dizaine de femmes inspirées par la nature, et dont notre Geneviève Cadieux fait partie du film. Et puis, Magdalena Abakanovic, pardon, ses œuvres sont absolument magnifiques et époustouflantes. Et la photographe Seton Smith, et voilà, et bien d'autres. Et Kalalus, je ne sais pas si tu connais Kalalus, qui explore les vêtements, ça c'est magnifique. Et donc, Kiki Smith, donc, qui est bien sûr réputée pour travailler la notion du vivant, le corps comme réceptacle de culture. C'est vraiment fascinant de découvrir son choix de femme et les commentaires. Chaque artiste aussi est brièvement interviewé. Et la cinéaste Claudia Müller aussi fait appel à l'artiste in situ et conceptuelle américaine, donc Jenny Hauser, que vous connaissez bien aussi, qui œuvre depuis les années 80, qui a recours au médium du langage, qui est réputée pour ses enseignes lumineuses d'elle et ses images, ses méga projecteurs en milieu urbain, intérieur, extérieur. Et son champ d'action est celui des médias, de la politique. Et le film, donc, cette fois, il est question de l'organisation d'une exposition vidéo réunissant 24 femmes. Alors, on découvre encore tout plein de femmes artistes, dont Georgia, bien sûr, Georgia O'Keeffe, la réputée Georgia O'Keeffe des années 20, Kiki Smith, qui est dans ce film-là.
Louise Nevelson, j'espère.
Bon, il y en a 24, je peux pas tous les nommer. Agnès Martin, Joanne Mitchell et bien d'autres. Donc, deux films fascinants, tous les deux de 26 minutes. À voir, vendredi, donc, 31 mars, 18h, pour ce qui est de Jenny Hauser, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, et Kiki Smith, 20h45, au Centre canadien d'architecture. Voilà. On reprend le nouveau tour.
Alors, dans la continuité, un autre film qui a vraiment soutenu mon attention, qui s'intitule Gao Bo, dans le noir de l'histoire, un film d'Alain Fleischer. Alain Fleischer, qui est un habitué du FIFA. Oui. D'ailleurs, il dit qu'il ne fait des films que pour venir au FIFA. Alors, cette fois-ci, il nous fait connaître cet artiste chinois contemporain qui, d'ailleurs, s'exprime très bien en français. Il a passé, je crois, 2 ou 3 ans à Paris, mais il vit actuellement à Hong Kong. C'est un artiste à la fois peintre, sculpteur, qui, d'une part, raconte son enfance dans un petit village au nord de la Chine, sous le régime Mao. Et il parle aussi de sa mère qui s'est suicidée, a fait déjà une tentative de suicide en se jetant, en faisant une défenestration. Et une deuxième fois, elle s'est jetée sous un train. Alors, ça marque beaucoup la création de Gao Bo. On voit dans son atelier des rails de chemin de fer, justement, dans la terre. C'est très, très touchant. D'ailleurs, l'artiste pleure pendant son témoignage. Et il dit que sa mère lui a légué la volonté d'une vie meilleure, parce qu'évidemment, elle a connu à fond le régime communiste ostracisant. Donc, le cinéaste a eu une ingénieuse idée, c'est de projeter sur de vieux murs le visage de l'artiste qui raconte son histoire. Donc, c'est une sorte de mise en abîme où l'artiste s'incruste dans la matière et ses tableaux sont remplis de matière. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant comme idée. Il y a un lien assez marqué avec l'artiste allemand Sam Kiefer, oui, dont on a pu voir en exposition au Musée d'art contemporain il y a quelques années. D'ailleurs, je lui ai parlé à la fin du film. J'ai dit, votre esthétique ressemble beaucoup à M. Sam Kiefer. Ah, il m'a répondu, oui. Il dit, c'est un artiste que je déteste. Mais que j'aime beaucoup.
Un amour.
Alors, bref, c'est un film à la fois d'émotion, d'information sur le travail de création et aussi sur la mort, puisque à la fin, on voit Gao Bo qui va régulièrement au Tibet. Et au début, elle est là pour faire de l'équitation parce qu'il y a beaucoup de chevaux au Tibet. Et par la suite, il s'est imbibé dans la culture et la spiritualité tibétaine. Et on voit, entre autres, il fait une performance où il a imprimé ou peint des visages de Tibétains qui ont été morts sous le régime, qui se sont fait tuer sous le régime de Mao. Donc, il a peint ça sur des galets, des pierres, qu'il met dans un ruisseau, il place ça dans un ruisseau, et à un moment donné, la caméra s'élève très haut et on voit tous ces visages qui semblent flotter dans l'eau.
Problème avec le régime chinois?
Non, apparemment, ben, il est chinois lui-même.
Oui, mais c'est parce que les Tibétains, c'est un peu une critique sur l'assassinat de...
Oui, mais il n'en est pas question, en tout cas, dans le film. Et la fin du film, on voit ces Himalayas dans les nuages. C'est assez impressionnant, ces dernières images qui deviennent méditatives, en fait. Alors, un film que je recommande fortement, j'espère qu'il gagnera un prix et qu'on le reprendra dimanche ou qu'il soit acheté par la télévision et qu'on le projette quelque part.
On va le souhaiter. Merci beaucoup, Pierre. Avant de passer en musique, on va y aller avec Geneviève.
Donc, moi, j'ai fait... Bon, c'est un volet
deuxième
historique.
Film.
Oui, c'est éducatif, c'est historique. C'est la vie des fondateurs de l'art moderne. Le traitement de cette série de films, qui comprend six... c'est de 1900 à 1945, donc du début du siècle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment sur Picasso, Modigliani, toute cette faune artistique qui s'est réunie au bateau Lavoir au début du 20e siècle, à travers l'histoire, c'est-à-dire à travers la Première et la Deuxième Guerre mondiale, à travers la politique, c'est parce qu'on sait qu'il y a eu le fascisme en Espagne, ceux qui se sont... qui ont décidé de prendre part, de combattre le fascisme et les autres. Donc, c'est vraiment l'histoire de la société de cette époque-là, en quelque sorte. Les films ont été faits à partir d'archives, de collages, de peintures, de dessins animés.
Donc, fascinant,
c'est très intéressant parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait que ce soit Picasso ou les autres artistes comme personnages, ce qu'elle a fait, parce que ce qu'elles ont fait, parce que c'est fait par des femmes, je vais vous donner le nom des femmes qui ont participé à ça, c'est Amélie Harrault, Pauline Gaillard et Valérie Loiseleu. Mm-hmm. Donc, c'est elles qui ont fait toute cette série de films, qui était une commande, en fin de compte, aussi. Et ce qui s'est... À partir d'un livre, qui a été...
C'est fait pour la télévision.
Télévision, c'est pour Arte, en réalité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est ça, c'est qu'ils ont... Ils ont fait ça sous forme d'animation, évidemment, parce que le personnage n'existe plus, pour rendre plus présents les artistes qu'ils représentaient. Ces figures, comme Picasso, qu'on va voir tout au long, évoluer à travers cette moitié de siècle, qu'on voit commencer à en peindre, qu'on voit justement, parce que j'ai l'impression que quand il a commencé le cubisme, parce qu'il y avait eu le fauvisme là, de Matisse qui avait présenté sa toile qui avait été vraiment hué en quelque sorte, c'est-à-dire que c'était le fauvisme avait été vu comme quelque chose qui n'était pas artistique Picasso, ce qu'il avait fait en réalité c'est qu'il a dit moi je vais faire une œuvre qui va faire encore plus polémique. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il a fait le cubisme. C'est pas vraiment pour... c'est-à-dire, dans une continuité, c'était pour provoquer.
Donc, c'est des films assez riches et denses, là.
C'est-à-dire que c'est un... c'est un film qui relate vraiment la vie de cette époque,
oui.
À travers la guerre. On voit Capa, justement, oui. le photographe, qui va couvrir, qui va aller sur les champs de bataille. Donc, c'est les premiers photojournalistes, en quelque oui. sorte.
Et il y a une place aux arts visuels dans ces films-là.
Et oui, bien sûr, tout au long. Alors. Les deux derniers, je dirais le 5 et le 6,
oui.
Sont plus... il y a les photographes qui sont, oui. qui sont représentés, les photographes de guerre, justement, oui. les photojournalistes. Mais on parle beaucoup aussi de littérature. On parle, on parle aussi des surréalistes.
Ah,
parce que les
surréalistes,
c'est le mouvement surréaliste qui oui. va partir dans les années 30, en réalité, bien avant, mais qui va se continuer avec Breton. Mais Breton, lui, disait que il était contre les arts visuels.
Bon, c'est ça.
C'est ça. Il y avait un problème.
Geneviève, on va garder ça parce qu'on va passer en musique. Parce qu'on va regarder, parce qu'au retour de la musique, moi, je vais parler du film Magritte. Fait qu'on okay. pourra en parler davantage. Donc, ce sont deux films. Donc, les deux derniers de cette série-là sont présentés vraiment, je pense.
C'est dimanche.
C'est dimanche.
Aussi,
je pense dimanche. Il me semble que c'est vendredi, en tout cas. Au retour de la musique, donc.
Ah non, regarde.
À quel moment c'est présent, ces deux films-là sont
jeudi
présentés.
Jeudi et samedi.
Mais donc, les deux films sont présentés jeudi et samedi. Donc, à une recommandation de Geneviève, on passe tout de suite en musique. Une musique spéciale de Luc Cousineau, parce que Luc Cousineau, étonnamment, a droit à son film dans le cadre du Festival international du film sur l'art vendredi, donc vendredi 15h45. Alors, écoutons un peu de Luc Cousineau. Ça va vous rappeler des bons souvenirs. Alors, on va poursuivre, Geneviève, oui.
C'est à 20h45, jeudi le 30 mars, au Musée des beaux-arts de Montréal, puis le samedi à 13h15 au Centre d'architecture.
Alors, ça, c'est cette fameuse série là,
des aventuriers de l'art moderne.
Des aventuriers de l'art moderne.
C'est 5 et 6, donc c'est Libertad et Minuit à Paris.
Merci beaucoup, Geneviève. Alors, moi, je vais vous parler tout de suite, parce qu'on venait justement, Geneviève parlait de Breton. Moi, mon coup de cœur absolu, c'est bel et bien le film du cinéaste Sylvain Berger sur le peintre belge surréaliste Magritte. Et c'est titré Magritte, la trahison des images. Alors, on connaît très bien cette citation. Un film réalisé donc à l'occasion de la grande rétrospective organisée au Centre Pompidou. Hein, le film... Et ça a eu lieu en 2016. Le film nous informe de la vie de cet artiste non dénué d'épreuves, hein, dont le suicide de sa mère en 1912, c'est quelque chose, ça a été marquant. Et le film nous parle aussi, bien sûr, des réflexions nombreuses de l'artiste qui le hantait, en fait, des étapes de sa peinture, comme la période vache, la période solaire. Et oui. Et donc... C'est donc les œuvres sont énigmatiques, mais elles sont absolument, elles ne reflètent absolument pas son mode de vie qu'il voulait calme, sédentaire et se plaisant en compagnie de son chien, sa femme. Et les œuvres et son atelier. Alors, et bien sûr, l'homme au chapeau de melon, c'est bien sûr, je pense, mais.
Chapeau melon.
Au chapeau.
Il n'était pas fait en melon.
Au chapeau melon. Pardon. C'est bel et bien lui, hein. Voilà, Magritte lui-même. Alors. À ce moment-là, le cinéaste démarre bien sûr avec ce qui a marqué, l'événement marquant qui a marqué Magritte, c'est l'origine, hein, qui est à l'origine de son œuvre, c'est sa rencontre avec la reproduction du chant d'amour de Giorgio de Chirico. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'une image pouvait se connecter à la vie de l'esprit. Et Magritte, bien sûr, bon, à travers cette démarche-là, veut provoquer le spectateur avec des objets du quotidien, hein, qui sont replacés dans un contexte tout autre, inattendu. Il est bien sûr question, bien sûr, dans le film de l'œuvre, la célèbre œuvre, la peinture n'est pas une pipe, hein, c'est ça, à ce moment-là, qui... Et oui, il y en est question, à savoir que l'objet, c'est la pipe n'est pas l'objet. Ceci n'est pas une pipe. Hein. La pipe n'est pas un objet. C'est seulement une image, voilà. Alors, c'est un film d'intérêt parce que, bon, oui, il y a toute sa réflexion et la narration est intéressante avec l'accent de l'artiste.
Il y a aussi le fait...
On a des extraits de l'artiste qui présente son œuvre, mais on a aussi un narrateur qui a le même accent que l'artiste. Hein, Geneviève?
Et ce qui est intéressant, c'est aussi justement la relation breton.
C'est ça.
Avec breton. Et,
oui, voilà.
Je disais tout à l'heure que...
C'est un autre intérêt du film.
Pour breton, le surréalisme s'exprimait en mots et non en images.
Oui.
Il a fait des œuvres justement où il était écrit toutes sortes de choses sur toutes sortes d'objets qui ne correspondaient pas aux objets en question. Et c'était pour provoquer Breton, justement.
C'est ça. Et pour Breton, la littérature se situait au-dessus de l'image. Et ça a toujours été un combat pour Magritte de hisser au statut de un statut reconnu l'image, la peinture.
Puis il était question aussi du surréalisme belge versus français. Puis c'est intéressant de voir justement ces deux façons de voir les choses.
Alors, pour moi, c'est absolument, merci Geneviève, c'est absolument un incontournable et ça va avoir lieu, ça va être pris vendredi, hein, 18h15, vendredi 18h15, et c'est une grande bibliothèque. À voir. On poursuit peut-être avec Robert.
Rapidement, je vais parler de Eva Hesse. C'est le film qui est présenté ce soir, 18h, à Musée des Beaux-Arts. Le film est allemand, parce qu'elle est d'origine allemande, mais elle a vécu pas mal toute sa vie aux États-Unis. Le film, au début du film, il y a un des personnages qui dit en anglais textuellement « She was not manipulating the materials, she was the material ». Autrement dit, elle ne faisait pas que jouer avec les matériaux. C'était elle-même le matériau. Et puis, c'est assez ironique parce qu'à la fin du film, on apprend évidemment qu'à la fin du film, elle meurt d'un cancer du cerveau. Et possiblement, le cancer lui aurait peut-être été amené justement par les matériaux, la résine polymère, etc., avec laquelle elle travaillait. Il est arrivé la même chose avec Mousseau, je pense. L'artiste Mousseau, ici, il est mort de son art.
Les
dans un sens.
Toxiques.
Ouais. Donc, c'était une enfance assez, une vie assez relativement harmonieuse, avec des parents assez fortunés qui n'étaient pas versés dans les arts, mais quand même, qui la supportaient, etc. Elle a eu un mariage qui a été un peu difficile, mais quand même qui a eu des bons moments, et son mari était sculpteur. Et elle, au début, elle faisait de la peinture, et c'est intéressant ce qu'elle faisait, parce que moi, je trouvais ça très coloré, etc. Et puis, à un moment donné, elle travaillait dans le même atelier que son mari qui était sculpteur, il y avait des matériaux, elle a commencé à jouer avec les matériaux, puis à faire des bas-reliefs ou des hauts-reliefs, puis là, ça s'est détaché du mur à un moment donné, puis elle a commencé à faire de la sculpture. Et c'est une personne qui travaillait beaucoup. Alors, elle est morte à 34 ans d'un cancer du cerveau, et sa grosse période de production, c'est entre les années 60 et 70. Et c'était une époque d'effervescence. Hein? Imaginez à New York dans les années 60. Bon. Alors, ça a été comme ça une vie très fructueuse qui n'était pas sans problème parce qu'elle avait des problèmes un peu de santé mentale, d'équilibre mental, de dépression, etc. Mais en fait, dans l'ensemble, c'est sa fin qui a été tragique. La qualité du film intéressante parce que c'est un film qui est long, environ 1h40. Il y a beaucoup de témoignages divers, il y a beaucoup de plans finalement, etc. Ça donne une certaine... Il y a des films d'époque, ça donne une certaine quand même... c'est touchant comme film. Alors même si c'est long et que vers les deux tiers, je commence à trouver ça un peu ça long, on accroche au film quand même, c'est très intéressant.
Un film que tu recommandes et qui va repasser...
Un artiste de grand talent avec un style assez éclaté.
Et qui va être polyvalent. En programmation donc ce soir.
Ce soir.
18h, Musée des Beaux-Arts de Montréal. Merci Robert, allons-y avec Pierre, une dernière suggestion.
Il y a Geneviève qui avait choisi le même film, Jérôme Bosch, Diable aux ailes d'ange.
Robert aussi qui l'a vu.
Ouais. Alors pour moi, c'est un véritable bijou, ce film-là.
Oui, c'est extraordinaire.
Est-ce que tout le monde est unanime que c'est un bijou de film?
Oui.
OK.
Très
important.
Qui raconte à la fois la vie de cet artiste-là. D'ailleurs, on a célébré 500e anniversaire en 2016 de sa mort. il a été beaucoup inspiré par la Bible, entre autres, et des symboles ésotériques du Moyen Âge. Et le hibou qui est récurrent dans presque tous ses tableaux, qui est un peu son alter ego, si on veut.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le poisson qui correspond au Christ. Ça, ouais, c'est spécial.
C'est l'air du poisson, c'est l'air du Christ.
Ouais. Ouais, c'est le chardonneret, surtout, en tout cas.
Aussi, oui. Ouais. Donc, à l'âge de 14 ans, il assiste à l'incendie de la cathédrale de sa ville, et c'est ça qui l'a inspiré pour ensuite faire les feux de l'enfer dans un de ses tableaux. Il a souvent fait des scènes où la sexualité était très présente, de toute forme.
Et plus explicite.
Très explicite. Ouais, ouais. Et malgré tout, l'Église ne l'a jamais réprimandé, ne jamais mis au banc des accusés, disons. Alors, c'est vraiment un film assez fascinant. Et l'animation, c'est qu'on anime tous les fragments des tableaux. On voit un gros poisson qui en mange un petit.
Il se prend vie.
Ça s'anime. C'est assez semblable, en fait, de ce qu'on fait maintenant avec le numérique, entre autres à l'église Notre-Dame, avec les tableaux qui s'animent.
Il y avait la même chose dans RG, mais beaucoup moins.
Ah ouais. C'est un travail ciselé,
oui,
avec une précision extraordinaire.
Ça se rapproche tellement de l'œuvre elle-même que...
Malheureusement, on n'a plus de temps, mais en tout cas, ce que je peux juste vous suggérer, bien sûr, c'est finalement, le 31 mars, il y a le spécial Marche à l'or, hein, Marche à l'or numéro 2.